à tous
et bienvenue sur notre émission
Pourquoi pas,
avec au micro Amaya,
Léa
et Alba.
Vous savez désormais que Pourquoi pas, c'est des infos, un débat et du sport.
Voici le programme pour ce lundi.
Des actus avec le 45e anniversaire de la mort de Jacques Mesrine, considéré comme l'ennemi public numéro 1 français.
Et la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918.
Du côté sport,
nous parlerons de la boxe.
Et pour finir, nous allons débattre sur un sujet très intéressant, le salaire des footballeurs.
Vous êtes prêts? Alors pourquoi pas?
C'est tout de suite!
Débutons avec l'actualité.
Tout d'abord, nous allons parler de Jacques Mesrine. Le 2 novembre, c'était le 45e anniversaire de sa mort. Mais le connaissez-vous?
Ça me dit vaguement quelque chose. C'est un criminel, pas vrai?
À peu près. Disons plutôt que c'était un bandit, puisqu'il a fait plus de hold-up que d'assassinat.
Ouf! Parlons un peu de son histoire passionnante.
Jacques Mesrine est né le 28 décembre 1936 à Clichy, en périphérie de Paris. Ses parents étaient d'honnêtes commerçants. C'est à Clichy qu'il grandit et qu'il se met à fréquenter les quartiers les plus populaires de la capitale française.
Jacques n'aime pas du tout l'école et, après s'être fait renvoyer du lycée laïque de Clichy à cause de violences exercées sur le proviseur, il devient représentant en tissu.
Puis, il sert pendant la guerre en Algérie et il se marie et part travailler au Canada au service d'un milliardaire qui l'enlèvera.
Du coup, il l'a arrêté, mais il réussit à s'évader de prison et il retourne en France où il commet de nombreux hold-up pour lesquels il est souvent arrêté.
L'arrestation de Mesrine par le commissaire Broussard est célèbre, car, après de nombreuses heures de négociations, Mesrine ouvrit la porte de son appartement aux policiers et leur offrit du champagne en leur disant
« Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ?»
Il réussit une fois de plus à s'évader de prison et commet de nombreux braquages de banques et de casinos notamment.
Même si Jacques Mesrine a été considéré ennemi public numéro 1 français, il a toujours fait en sorte de ne blesser personne.
Ce qu'il voulait, c'était voler les riches, mais surtout ne pas blesser des innocents.
C'est pour ça que lorsque, accidentellement, il blesse gravement le journaliste Jacques Tillier alors qu'il lui tend un guet-apens, les conséquences sont graves.
Le commissaire Broussard trouve son appartement dans le 18e arrondissement à Paris et, le 2 novembre 1979, à la porte de Clignancourt, alors qu'il se trouve au volant de sa voiture avec sa femme, il est encerclé.
Le camion bâché qui se tient devant son véhicule cache des tireurs qui le tueront avec une rafale de coups de feu.
Il est enterré à Clichy, sa ville natale. De nombreux films et autres publications existent sur Mesrine, comme le film « L'instinct de mort ».
Si vous voulez en savoir plus sur Mesrine, on vous conseille de visionner le film. Pour les fans de rock, sachez que le groupe français Trust a aussi sorti la chanson intitulée « Le mitard qui retrace la vie de l'ennemi numéro 1 ».
Place à notre micro-trottoir où quelques personnes ont accepté de répondre à notre question. Que pensez-vous de Jacques Mesrine?
Écoutons-les.
Alors, Jacques Mesrine, l'ennemi public numéro 1 pendant plusieurs années, qui s'est échappé plusieurs fois de prison. Jacques Mesrine, je pense que si j'avais une image de Jacques Mesrine, ce serait un Robin des Bois, mais malheureusement violent. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y ait plus de justice, mais sa manière d'opérer n'était pas la bonne. C'est-à-dire on ne peut pas tirer sur des gens, ni que ce soit des policiers ou des gens dans la rue ou n'importe qui. On ne peut pas dégommer comme ça plein de personnes. Mais je pense qu'au départ, c'était une sorte de révolutionnaire qui a mal tourné, qu'on a abattu comme un chien, mais vraiment comme un chien. Je pense que la police n'a jamais expliqué le pourquoi du comment on l'a abattu, lui et sa compagne. Mais bon, c'est pas un héros, plus un anti-héros. Mais il y avait énormément de gens qui avaient sympathisé avec Jacques Mesrine, beaucoup, mais qui étaient un personnage trop violent pour qu'on puisse le permettre d'être en liberté, quoi. Voilà.
Pour moi, c'est un bandit, hein, il faut le dire quand même, c'est un bandit, puisque il a fait pas mal de hold-up. C'est l'ennemi public numéro 1 en France, c'était dans les années 70. Et moi, c'est un gars que j'admirais beaucoup. Je sais pas, parce qu'on aime bien les bandits, peut-être. Quoi. En tout cas, moi, j'aime bien les bandits. Et en plus, il y a un groupe de rock qui s'appelle Trust, qui a fait une chanson sur Mesrine. Et c'était un de mes groupes préférés quand j'étais adolescente.
Bonjour les filles et merci de m'avoir choisi pour votre émission radio. Alors, Jacques Mesrine, clairement, si je me souviens bien de son histoire, c'était un psychopathe qui a terrorisé la France pendant les années 60. Donc un psychopathe, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est quelqu'un qui n'éprouve pas de sentiments ni de compassion pour les autres. Donc du coup, il est d'une certaine façon libre de faire ce qu'il veut. C'était vraiment une menace pour la société. Il a tué plusieurs personnes, si je me souviens bien, et qu'il a torturé même des personnes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était recherché par la police et à la fin, il était exécuté par la police de façon très violente dans la rue, je crois, à Paris ou à Marseille, je ne sais plus. Ils n'ont pas tué son compagnon, mais elle était à côté de lui dans la voiture et elle a subi des blessures assez graves, même si elle a survécu. Lui, il n'a pas survécu, mais il fallait, je pense, le tuer. Donc c'est tout ce que je sais sur lui, mais je pense en faisant un peu de recherche, vous pouvez savoir plus.
C'était pour la justice française un criminel, effectivement, hein, qui a été tué lors d'un affrontement avec la police. Il est aussi très connu parce qu'il a échappé à la justice pendant très longtemps, il s'est évadé, etc. Donc il fait partie de l'histoire, en quelque sorte, de la 5e République en France. Et il fait partie aussi de l'histoire de la justice, des grandes affaires judiciaires du 20e siècle en France. Voilà.
Poursuivons avec le 11 novembre, une date très importante puisque c'est l'armistice de la Première Guerre mondiale.
D'ailleurs, c'est férié en France. Alors voici un petit cours d'histoire.
L'armistice est un accord signé entre l'Allemagne, les vaincus, et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis pour mettre fin aux combats de la Première Guerre mondiale.
Des combats ont causé plus de 10 millions de morts de soldats entre 1914 et 1918, ce qui est juste énorme.
Pour cette cérémonie commémorative, le président va raviver la flamme du tombeau du soldat inconnu.
Si vous ne saviez pas, c'est une énorme tombe située sous l'Arc de Triomphe, où sont déposés tous les corps ou ossements de soldats inconnus.
Le 11 novembre est donc une date où l'on rend hommage à tous les soldats morts pendant la Première Guerre mondiale.
L'armistice a été signé dans la forêt de Compiègne, en France, à 5h15 du matin.
Hélas, le cessez-le-feu n'est annoncé qu'à partir de 11h, ce qui laisse le temps de faire encore plus de victimes.
Donc aujourd'hui est une date très importante pour toute la France.
Oui, il s'agit de rendre hommage à toutes ces victimes de la guerre.
Ce matin, nous avons assisté à la cérémonie pour l'armistice.
Nous avons recueilli quelques impressions des élèves présents.
Retrouvons-les.
La cérémonie, elle était très bien faite. Toute l'organisation, elle était parfaite dans mon opinion. Parce qu'il y avait tout le monde qui savait son rôle, qui savait dans quel moment rentrer. Il n'y a eu aucune erreur. Et en général, c'était très bien. Parce que, ouais, bon, il y a tout le monde qui a eu un petit rôle. Vraiment, le spectacle, il y avait tout le monde qui mettait de l'ambiance.
J'ai trouvé qu'elle s'est bien déroulée. On a tous été respectueux. Tout s'est bien passé.
J'ai trouvé que la cérémonie était très solennelle et que tout le monde a bien respecté auquel on rend hommage aujourd'hui.
Je crois que c'est très bien pour commémorer à tous les morts de la Première et la Seconde Guerre mondiale et d'autres guerres françaises. Et aussi de l'intégrer à la vie des collégiens, car on doit aussi apprendre ce type de choses. C'est pas que les adultes.
Mais restez ici. Maintenant, nous allons parler de la boxe. C'est parti pour le sport, et plus précisément la boxe.
Et commençons avec de l'actualité sportive en boxe féminine, avec l'Algérienne Iman Khelif, la championne olympique de boxe de cet été. La connaissez-vous ?
Pendant les Jeux Olympiques, elle a été victime d'une campagne de cyberharcèlement avant et après sa médaille d'or, puis a décidé de porter plainte. Mais commençons par l'élément déclencheur.
Le journal Le Correspondant a affirmé dans un article que la boxeuse était porteuse de chromosomes masculins XY.
Mais du coup, vous vous demanderez, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, pas tout à fait. Il semble que le rapport de l'hôpital Kremlin-Bicêtre aurait rendu un rapport non authentifié.
Même si elle avait auparavant participé à beaucoup d'autres compétitions comme les JO 2020 sans la moindre problématique, il semble qu'elle ait échoué à un test de genre de la Fédération Nationale de Boxe, mais le CIO, lui, a autorisé à Khelif à participer aux JO féminins.
Mais cet article a causé un cyberharcèlement aggravé envers l'athlète. Qui a donc décidé de porter plainte ?
Continuons avec Larry Holmes. Vous ne pensez tout de même pas que le sport était déjà fini quand même ?
Larry Holmes est un boxeur américain né le 3 novembre 1949. J'espère que vous lui avez souhaité son anniv. Sinon, il n'est jamais trop tard.
Revenons à sa carrière. Il se lance dans la boxe à 19 ans, après 21 combats amateurs. Il tente de se qualifier aux Jeux Olympiques de 1972, mais il échoue, disqualifié par accrochage répété.
Mais il enchaîne quand même les victoires, jusqu'à devenir champion du monde de boxe, poids lourd, un titre qu'il va défendre 20 ans.
Et oui, pendant 7 ans et 2 mois, il va assumer son titre. Il détient donc le troisième plus long règne comme champion du monde de poids lourd derrière Joe Louis et Vladimir Klitschko.
Il a aussi cumulé 48 victoires d'affilée. C'est le quatrième meilleur bilan consécutif. Mais il perd malheureusement sa série contre Michael Spinks.
Puis après 4 nouvelles victoires, il combat Brian Nielsen, à ce moment invaincu, et connaîtra alors sa 6e et dernière défaite de sa carrière le 24 janvier 1997.
La dernière défaite, mais pas son dernier succès. Il va combattre 2 anciens champions du monde contre lesquels il a gagné. Puis livre son ultime combat le 27 juin 2002 contre Eric Hirsch. Il finit sa carrière par un triomphe.
Bon, cette fois oui, l'actualité sport est vraiment terminée.
Mais laissons place au débat du mois avec un thème complètement différent que le dernier.
Et enfin, terminons notre programme avec le débat du mois. Les salaires des footballeurs sont-ils trop élevés ?
Tout d'abord, nous allons vous donner quelques statistiques.
En moyenne, un footballeur débutant gagne jusqu'à 2 800 € par mois et un professionnel peut monter jusqu'à 16 800 € par mois.
Bon, ne parlons pas des footballeurs comme Ronaldo ou Mbappé qui gagnent plusieurs millions par mois.
Donc, nous allons débattre sur ce sujet, très partagé. Qui veut commencer ?
J'y vais. Alors franchement, pour taper dans un ballon, je trouve que c'est excessif. Vous me direz, non, mais ils font beaucoup de travail et ils s'entraînent très dur, mais par exemple, un pompier, dont le métier est de s'engouffrer dans les incendies quand même, ou un médecin qui a parfois la vie de quelqu'un entre ses mains, font beaucoup plus d'efforts qu'un footballeur.
Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est vrai que dans certains cas, le salaire des footballeurs, il peut être un peu trop élevé. Mais, je suis pas d'accord, désolée, mais c'est aussi dû à leur travail. Ils ont accompli pendant toute leur carrière. Surtout que, bah, dans la majorité des cas, ils ne gagnent pas autant.
Après, il faut préciser qu'ils gagnent une fortune en jouant au foot, alors que des gens travaillent d'arrache-pied tous les jours pour gagner un maigre salaire.
Non, parce que dans la majorité des cas, beaucoup de gens ne peuvent pas compter sur ce métier. En France, pour plus de 200 millions de personnes licenciées dans un club, seulement 1% sont des footballeurs professionnels.
Oui, mais par exemple, un médecin gagne entre 4 500 et 5 000 € par mois, soit 3 fois moins qu'un footballeur professionnel. Ça me paraît quand même un peu exagéré.
Surtout que les médecins, eux, font un métier très honorable vu qu'ils sauvent des vies tous les jours.
Oui, mais aussi on peut critiquer les footballeurs, mais aussi on peut critiquer les youtubeurs ou les chanteurs. Parce que je pense que Taylor Swift est plus riche que Cristiano Ronaldo, qui est le footballeur le plus rémunéré de tous. Il y en a très peu qui sont autant rémunérés.
Et bah c'est pareil pour les chanteurs. Après, il faut préciser qu'ils sont des artistes, ils transmettent des émotions à travers leurs chansons, et ils peuvent facilement dénoncer des thèmes graves, ce que le foot n'autorise pas.
Le foot est aussi un sport, c'est un sport qui est fait pour divertir les gens, comme le chant aussi est fait pour divertir les gens, exprimer. Peut-être qu'un sport permet d'exprimer quelque chose, comme toi tu fais de l'équitation. Ça te fait du bien d'en faire de l'équitation.
Oui mais ça me fait du bien à moi, pas aux gens qui me regardent.
Et alors les chanteurs aussi ça leur fait du bien à eux, sinon ils seraient pas chanteurs si à eux ça leur faisait rien.
Puis personnellement, je trouve que le foot, ça crée quand même plus de conflits que de... Enfin, ok, ça peut créer beaucoup de plaisir quand tu le regardes, t'es pour ton équipe, machin. Enfin, ça crée énormément de conflits entre les différents membres des différents clubs et ça crée pas mal d'insultes quand même.
Oui, mais ça, c'est la vie. Enfin, il y a toujours des conflits. Attention, je vais voir une phrase philosophique que j'ai trouvée. Il faut de tout pour faire un monde. Si il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. De toute façon, vous n'allez pas croire que si l'argent n'est pas au footballeur, elle ira pas aux pauvres. Elle ira aux États, elle ira aux États et qui vont le donner à quelqu'un d'autre. Ou alors aux multimillionnaires qui vont
Là, t'es en train de dire que ce sont des piliers de la société, mais là, t'es en train de dire que les SDF et les pauvres, c'est aussi des piliers de la société.
Bien sûr.
Ah, donc bah, toi, t'es pour la pauvreté dans le monde. Bravo, bon pour la mentalité.
Bah non, je suis pas pour la pauvreté. Mais si. Mais il y a toujours des différences de salaire, quoi. S'il n'y a pas l'intelligent, il n'y a pas de bête. S'il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre. Enfin, tu peux pas inventer ça.
Mais peu importe, ça veut dire que t'es pour la pauvreté dans le monde. Bref.
Non, je suis pas pour la pauvreté dans le monde.
Sachant qu'à 1% du salaire des footballeurs, c'est même pas le salaire que gagne quelqu'un en un an entier, voire 10 ans.
C'est des banquiers, désolé. Mais parfois, tu peux être chef d'entreprise et tout, et tu peux gagner beaucoup d'argent avec ton entreprise. On critique pas Jeff Bezos, Bill Gates et tout ça pour leur métier. On critique les footballeurs parce que leur métier, c'est de faire du sport. Mais écoutez, sport, c'est un truc qui n'est pas facile, en fait. Il y a des entraînements, parce que parfois, tu peux aller à l'hôpital, hein, parce que vous n'allez pas croire qu'eux, ils font leur petite voiture de luxe.
Bon, après, des fois, c'est pas très, très honorable, parce que quand même, ils font semblant de tomber sur le terrain juste pour mettre un carton jaune aux autres équipes.
Oui, mais ils font semblant. Bah oui, mais écoute, ça c'est des acteurs. Hein. Je suis désolée, mais ça, c'est
pas bah, justement, je trouve que c'est un peu des tricheurs quand même.
C'est des acteurs, ok, c'est des acteurs. Écoute, deux métiers en un. Moi, je dis
bref,
pourquoi pas.
Hein. On a des avis très partagés, mais bon, moi, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on laisse un peu la place à nos auditeurs, hein, qui disent un petit peu ce qu'ils pensent aussi.
Ok, si tu veux. Mais même si on a tous des avis différents, il faut pas oublier que
un débat terminé, mais la réflexion ne fait que commencer.
Et voilà, c'est la fin de cette émission.
Nous espérons que nos sujets traités vous ont intéressés.
Nous vous disons à la prochaine.
En attendant, abonnez-vous sur notre site www.radioalfb.net et laissez-nous des commentaires.
On compte sur vous.
Nous vous laissons avec Too Sweet par Hozier.
Bye bye et bonne semaine.
Done, but you